poser. Combien vous touchez de retraite, Alain ?
Alors, je peux le dire, hein, j'ai pas honte. J'ai à peu près 1300 euros, plus entre 300 et 600 euros en plus par mois lorsque je bénéficie de quelqu'un pour m'aider.
Bon, bah, c'est parfait.
Donc, en ça plus... tourne autour de 1500 euros à peu près. Mais je suis dans la tranche où je n'ai pas le droit à cette fameuse, vous savez, mutuelle universelle qui est solidaire, qui est donnée par la sécurité sociale. Je dépasse de 230 euros par mois. Donc,
oui. Voilà. Bon, de toute façon, il y a des seuils, on ne peut pas faire autrement. Alors, non. Maintenant, il va falloir trouver peut-être quelqu'un, alors, tant qu'on y est, puisque la Libre Antenne, c'est la solidarité, on l'a vu la semaine dernière avec Hélène, on le voit tout le temps, tous les soirs.
Oui, je l'ai entendu.
Ah oui, vraiment, et vous êtes vraiment formidable de l'autre côté du micro.
Vous voyez, quand je souffre comme ça, ça me fait des névralgies dans la mâchoire. J'ai beaucoup de mal à articuler. Parce que j'ai quand même deux dents qui ont sauté. Hein.
Oui.
Parce qu'il ne m'a pas frappé légèrement. Hein. Plus il me tenait, et puis ils m'ont pris par derrière. Et donc, il m'a frappé avec quelque chose de très dur. Je ne sais pas ce que c'était. Ce n'était pas une bouteille, ça ressemblait, je ne sais pas, peut-être à une arme.
Bon.
Je ne sais pas. En tout cas, alors... c'était quelque chose de dur qui était dans sa main, enveloppé dans sa manche. Il m'a tapé.
Alain, je viens de penser à quelque chose peut-être pour descendre à Montpellier, puisqu'à Montpellier, on le voit, Elisabeth, non seulement vous propose son logement, en plus vous avez les moyens de le prendre parce que c'est pile dans vos prix, vu le montant de votre retraite, comme le demandait Véronique. Ensuite, vous mettrez en place l'auxiliaire de vie, et puis ensuite, vous réfléchirez effectivement à tout l'aspect psychologique et thérapeutique et vous pourrez vous faire suivre et aider sur place. Donc on a Elisabeth qui vous réceptionne à l'arrivée, qui va vous emmener acheter les meubles, etc. Est-ce qu'un blablacar, c'est envisageable pour descendre à Montpellier, si la personne qui vous héberge en ce moment peut s'occuper de vous trouver?
Alors,
le blablacar,
peut-être quelqu'un qui pourrait, je ne sais plus si on parle à Gare de Lyon ou Gare d'Austerlitz, je sais qu'il existe des accompagnants, mais bon, peut-être je peux avoir quelqu'un qui pourrait m'accompagner. Peut-être.
Bien sûr. Bah oui, cherchez de ce côté-là, parce qu'effectivement, ce sera encore mieux, vous prendrez le train et à l'arrivée...
Un petit truc. Alors, c'est un petit truc, mais qui est très important pour moi. J'ai une minette qui est avec moi depuis 9 ans, voilà, qui ne me quitte pas, et c'est le seul souvenir réel qui me reste de la mère de mes enfants. Voilà, c'est une chatte de 9 ans.
Bah vous allez l'emmener avec vous?
Ah oui.
De toute façon, Elisabeth, elle a un chien, elle a Olga.
Elle a passé 3 jours derrière la porte à attendre que, regardez si c'était moi qui entre dans la maison.
Bah oui, bien sûr que vous allez l'emmener avec vous. En plus, vous parlez nos auditeurs et auditrices ont des chats. On a souvent des SMS au 739-21. Moi-même, j'ai un chat de 22 ans.
Ah oui, non, mais celle-là, c'est spéciale. Mon chat, il parle. Non, je plaisante.
Mais il vous accompagne, fidèlement.
On a une communication très spéciale, tous les deux.
Donc, vous allez pouvoir partir avec votre chat. C'est fondamental de garder son animal de compagnie tant qu'il va bien.
Non, mais si c'est pour aller voir, c'est pas grave, un aller-retour. Elle a l'habitude, la pauvre.
Oui, mais ça va même pas être pour aller voir, ça va être pour vous installer. Je pense qu'Elisabeth va vous envoyer des photos, peut-être faire une vidéo. De toute façon, au point où vous en êtes, Alain, aujourd'hui, il y a une main tendue, il faut la saisir. Vous savez, les sages nous disent qu'il faut saisir les opportunités de la vie.
Oui, je sais. Et c'est ce que je disais à Juliette, j'avais pas pensé de ce sens, parce que là c'est arrivé d'un seul coup là, hein. Je pensais pas que en quelques minutes j'aurais une proposition. Moi j'avais pensé à quelque chose, mais bon, ce qui veut pas dire que ça peut pas arriver. Moi j'avais pensé trouver aussi un hébergement chez quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est isolé, qui est toute seule, qui, comme je disais à Juliette, qui lui manque un peu du beurre pour mettre dans ses épinards, essayer de l'aider, de peut-être rompre aussi son isolement, et puis ben, elle pourrait m'aider aussi. C'est un échange de bons procédés, quoi, voilà.
Ben écoutez, vous avez en tout cas fait l'appel sur l'antenne d'Europe 1. Si quelqu'un nous écoute, qui a envie d'avoir quelqu'un
c'est
à ses côtés...
C'est vrai qu'il y a
côtés.
Beaucoup de gens qui sont seuls, des femmes isolées, qui ont des fois un appartement, qui ont du mal à... qui sont parfois propriétaires et qui n'ont que ça, qui ont du mal avec une petite retraite pour...
Je sais ce que... ...est parvenu à un accord avec ses créanciers pour injecter 1 milliard 200 millions d'euros d'argent frais et en convertissant une partie de ses dettes en capital. La semaine dernière, le gouvernement s'était dit prêt à racheter une partie des activités stratégiques d'Atos, l'un des piliers technologiques de la French Tech. Et puis le Stade Brestois a été accroché sur son terrain par le FC Nantes, 0-0, qui se rapproche du maintien, tandis que les Brestois voient leur 3e place au classement menacée. Vous écoutez Europe 1. Il est 23h02, la suite de la Libre Antenne, Valérie Darmon.
Merci Thomas, tout à l'heure minuit pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h, 1h.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
Joindre dans la libre antenne d'Europe 1 et de composer, si vous le souhaitez, le 01 80 20 39 21 pour nous raconter vos expériences de vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Vous pouvez aussi nous laisser des SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit et nous écrire à libreantenne@europe1.fr. Laissez-nous vos coordonnées pour que Juliette et Nicolas vous rappellent. Bonsoir Marie-Françoise.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. De quoi voulez-vous nous parler ? Que puis-je faire pour vous ?
Voilà. En fait, moi, je voulais simplement faire part de mon expérience en me disant que peut-être elle pourra être utile à certaines personnes. Parce que voilà, je suis la mère d'un jeune homme qui a eu, comment dire, dont les premiers symptômes de la schizophrénie sont apparus en 2011, quand il avait 24 ans. Il y a eu tout un parcours à la suite, j'ai dû le faire hospitaliser d'office, etc. Et puis, malheureusement, mon fils fait partie des personnes qui sont violentes. Et à deux, une première fois en 2015, il a agressé un jeune homme qui a dû être hospitalisé pendant 5 semaines. Mon fils a écopé de 2 ans de prison. Il en est sorti après. Et puis, malheureusement, il a réitéré, mais là, il a quasiment laissé pour mort mes 2 voisins trentenaires. Et là, il a été condamné pour une très lourde peine, l'abolition du discernement n'ayant pas été retenue. Alors, si vous voulez, disons, l'expérience dont je parle, c'est quant à une reprise, j'ai voulu le faire hospitaliser d'office.
Quand le diagnostic de la schizophrénie a été posé, vous vouliez le faire hospitaliser ou après la première agression ?
Non, c'est après, c'est-à-dire en fait, parce que pour aller droit au but de ce que je veux dire, je peux vous développer l'histoire après de mon fils, mais ce qui est important à mes yeux pour les auditeurs, c'est de dire que lorsque on ne sait pas comment s'y prendre ou on a des difficultés pour faire hospitaliser son prof dans un hôpital psychiatrique, le mieux c'est d'écrire au procureur de la République en disant ce qu'il en est, parce que lors de sa première incarcération pendant 2 ans, mon fils a refusé de me voir et puis je me suis doutée qu'il ne prenait pas de traitement médical, donc j'avais écrit au service médical de la prison qui me l'avait confirmé et
pourtant il était déjà sous traitement, excusez-moi de vous interrompre Marie-Françoise, il était pourtant sous traitement.
Oui.
Et pour une schizophrénie sévère.
Oui.
Et la prison ne lui donnait pas les soins que j'ai.
Paranoïa. Mort. Oui. Donc, c'est ah, mais absolument. Et donc, je disais, parce que quand il était dans la prison des 2 ans, quand j'ai compris qu'il allait sortir parce qu'il a échoué, je veux dire, il y avait le personnel de la prison qui essayait de préparer sa sortie avec lui, mais bon, il avait tout refusé. Donc, le constat, c'était qu'à la fin, à l'issue de sa peine, on allait le mettre dehors, derrière les murs de la prison, avec 90 euros en poche. Je lui avais écrit, je lui avais proposé de l'héberger chez moi. Il n'avait pas donné suite. De toute façon, depuis longtemps, il ne m'écrit plus, il ne téléphone pas. Et puis, donc, il était à 15 km d'une grande ville, il n'avait pas de moyens de transport. Donc, j'ai compris que bon, ça n'allait pas.
Et donc on l'a remis dans la nature, juste pour bien comprendre ce qui s'est passé.
On a failli.
D'accord.
C'est-à-dire que si je n'étais pas intervenue, c'est ce qui allait se passer. Comme j'ai réussi à rencontrer le directeur de la prison, ça a été très compliqué. J'ai dû lui écrire à 3 reprises sur 2 mois, parce que je savais que le temps de sa libération approchait, même si j'ignorais quel jour, quel mois, etc. Bref, quand j'ai eu donc tous ces éléments, j'ai réfléchi un instant et à mon avis, j'avais la certitude que mon fils, ayant déjà agressé au couteau une personne, n'ayant pas eu de traitement pendant 2 ans, il allait récidiver et cette fois-ci, il allait tuer. Et donc, j'ai écrit, puisqu'il avait, avant cette incarcération, il était suivi à l'hôpital par un psychiatre, il y avait une obligation de soins, c'est-à-dire que le psychiatre, tous les mois, devait envoyer un rapport au préfet du département en question, en lui disant qu'il maintenait la poursuite de cette mesure. Et puis, début 2015, je l'ai appris après, entre discussions entre le psychiatre et mon fils, le psychiatre a levé la mesure. Donc, dans les 2 mois qui ont suivi, voilà, donc, il y a eu cette première affaire au couteau. Donc, la deuxième fois, j'ai donc écrit au préfet, j'ai écrit au ministre de la Santé, de la Justice, je crois, j'ai écrit au président de la République, bon, j'ai eu des réponses administratives qui ne menaient à rien. Le préfet s'est même déchargé sur l'ARS qui n'a pas bougé, alors qu'au préfet, j'avais envoyé une copie d'un rapport du psychiatre à lui-même. Et j'ai écrit au procureur de la République. Alors, le procureur, c'est donc la seule personne qui ait agi, qui ait fait quelque chose de concret et de positif, à savoir qu'il m'a écrit, il m'a donné le nom d'un psychiatre assermenté d'une autre ville que celle où mon fils était incarcéré, et puis il m'a donné donc le nom de ce psychiatre assermenté et son numéro de téléphone pour que j'entre en contact avec lui, ce que j'ai fait évidemment. Donc j'ai expliqué le parcours de mon fils, sa situation, je ne sais pas si je lui ai donné le téléphone de la prison pour qu'il ait accès au service médical, en tout cas de toute façon, lui il a toutes les coordonnées j'imagine. Donc il a fait le nécessaire, il a fait un rapport au procureur de la République et à 2 jours de sa libération, mon fils a été retiré de la prison et transféré dans un hôpital psychiatrique.
Oui, mais ce qui est incroyable, Marie-Françoise, ce qui est incroyable dans ce que vous nous relatez ce soir, c'est que si vous n'aviez pas été une mère attentive et responsable, on remettait votre fils dans cet état-là, en circulation.
Mm-hmm. Absolument, absolument.
C'est hallucinant.
Non, mais c'est complètement hallucinant. Et si je ne sais pas si j'aurai l'occasion, le temps de vous parler d'autre chose, d'une autre.
Oui, on a tout notre temps. Dans la libre antenne d'Europe 1, on prend le temps.
Oui, oui. D'accord. Parce qu'en 2019, je vous le dirai après, voilà, j'ai fait une autre action. Ça a suscité très peu de réactions, en tout cas.
Donc là, il part en hôpital psychiatrique, donc grâce à l'intervention, à votre intervention auprès du procureur de la République, qui est le seul à avoir bougé, et du coup qui a été assez réactif, puisque c'était donc quelques jours avant sa libération.
Mm-hmm. Et donc, deux jours.
Voilà. Un jour ou deux. Ah, c'était vraiment juste, hein.
Très juste. Mm-hmm.
Donc ensuite, il part à l'hôpital psychiatrique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui, Marie-Françoise? Parce que ce n'est pas parce qu'il est en hôpital psychiatrique qu'il prend le traitement, si?
Non. Alors, ce qui se passe, c'est au bout de 15 jours, j'avais dû déjà aller voir mon fils, le psychiatre m'appelle en me demandant de venir le rencontrer à l'hôpital. Et là, à ma grande surprise, il me dit, écoutez, votre fils va bien, il est guéri. Alors,
ah bon,
j'ai été tellement envie, j'ai été tellement sidérée que je n'ai pas su quoi répondre. J'ai accepté.
Et lui, c'était sonné. Le psychiatre assermenté, celui-là.
Ah non, pas
non,
celui-là.
C'est le psychiatre de l'hôpital.
De l'hôpital, absolument. Et donc, il me dit ça. Il m'a dit, je libère votre fille d'ici quelques jours. Voilà, je voulais simplement vous informer. Donc, toujours sonné, je rentre chez moi. Le soir, le lendemain, je réfléchis, je me dis, mais c'est fou comme situation. Mon fils n'a pas eu de traitement, il n'a pas eu de médicaments pendant 2 ans. On me dit qu'il va bien, alors que pour être remis, il faut quand même un certain temps.
Qu'on ne se remet jamais de la schizophrénie, sauf si on prend son traitement. On vit avec cette maladie très bien quand on prend son traitement. Sinon, on ne guérit jamais.
Ça. Mais c'est ça. Dans la bouche du psychiatre, alors que je savais pertinemment qu'on ne guérit pas cette maladie, tout au plus, on la... Quel est le terme ?
On la met en sommeil, on la régule.
Oui. Voilà, mais il y a un autre terme qui pour l'instant m'échappe, et on la stabilise. Lisa. Voilà. Oui. Mais par contre, donc, il faut continuer à prendre ses médicaments, et ce, jusqu'à la fin de ses jours.
C'est ça.
Donc, j'ai écrit une lettre recommandée à ce médecin. En lui disant que, d'une part, en 2 semaines, mon fils ne pouvait pas rattraper 2 ans sans médicaments, que cette maladie, je savais qu'on n'en guérissait pas, et je lui ai redit. Je lui ai dit, par ailleurs, j'ai consulté le site internet de votre hôpital et celui de l'hôpital psychiatrique chef-lieu de la région avec lequel ils étaient en lien. Et j'ai dit, voilà, sur votre site, sur l'autre, on propose telle chose pour aider les personnes à prendre du recul, à prendre des forces, à trouver un logement, à savoir comment rechercher un logement, et puis tout un tas d'autres trucs qui auraient pu aider mon fils à se remettre... ouais, disons dans le circuit normal
dans
de
la vie,
peut-être, oui. S'il en avait eu la capacité. Et puis, il y avait d'autres choses au point de vue santé qui avaient... voilà. Et donc, le psychiatre, quand il a reçu ce courrier, il m'a téléphoné immédiatement. Et il avait pris peur. Il avait craint que je n'envisage des poursuites judiciaires à son encontre. Et avec le recul, je lui ai dit que non. J'aurais dû laisser planer le doute. Mmh. Je pense, c'est ce que je conseille aux personnes qui nous écoutent, si jamais elles ont à faire ce genre de choses. On ne sait pas. Mais enfin, il a quand même gardé mon fils 5 semaines de plus.
Ah, donc ça a quand même fonctionné. Hein. D'ailleurs, on a Anne au 739-21 qui nous met un petit SMS et qui nous dit que beaucoup de parents d'adultes atteints de troubles mentaux n'arrivent plus à faire hospitaliser effectivement leurs enfants adultes. Donc, elle a fait exactement le même constat que vous, Marie-Françoise. Donc, il le garde 5 semaines de plus et ensuite...
5 semaines de plus, et puis donc mon fils sort, je vais le chercher, c'était fin mai.
Donc il le libère quand même, il le laisse sortir quand même, Et pendant ces cinq semaines, il a pris un traitement, votre fils, tout de même, puisque lui le considère comme guéri.
Oui, oui. Alors. Oui. Non, mais manifestement, quand je suis venue chercher mon fils, il était... Comment dire, il avait encore les effets des médicaments dans l'organisme, donc ça allait bien.
Oui, donc pardonnez-moi de vous interrompre encore, Marie-Françoise, mais encore, il y a une nouvelle incohérence, parce que ce même psychiatre qui change d'avis parce que vous faites, vous lui demandez, hein, d'une certaine manière, vous faites un peu de chantage, hein, entre guillemets, hein, sur le fait qu'il garde votre fils, parce que vous êtes lucide. Il vous dit, il est guéri, je le laisse sortir. Vous intervenez et lui donne un traitement pour le soigner de la schizophrénie. Donc c'est complètement incohérent.
Voilà. Malheureusement, au cours du parcours de mon fils, j'ai rencontré toutes sortes de psychiatres. Des bons et des moins bons, des imbéciles. Par exemple, je vais vous dire ce que j'ai pu bien faire lors de la première hospitalisation à ma demande. J'ai pu bien faire en prenant un papier, il y avait deux ou trois pages, je ne me rappelle pas, en expliquant la vie antérieure de mon fils, pour qu'il comprenne un peu mieux. Je ne vais pas tout raconter, bien évidemment, mais les grandes lignes.
Le contexte.
Puis, voilà, le contexte, et puis les derniers événements depuis que j'avais découvert qu'il souffrait d'une maladie psychiatrique. Le psychiatre en question a donné mes papiers, mes feuillets à mon fils en lui demandant s'il était d'accord avec moi.
Ah oui, bonjour la confidentialité.
Voilà. Ben voilà, il n'y en a pas. J'en ai rencontré un autre lorsqu'il était dans un autre centre pénitentiaire que l'actuel. J'avais réussi à contacter, j'avais appris qu'une psychiatre suivait, enfin qu'il n'y avait qu'une équipe de psychiatres qui suivait les patients atteints de troubles psychiatriques. J'avais trouvé la personne, donc elle a accepté de m'appeler. Et je lui ai dit, vous savez, madame, je connais mon fils. Si vous voulez qu'il avance dans le traitement, il faut absolument s'assurer qu'il prenne le médicament devant une personne et qu'il déglutisse pour qu'on s'assure qu'il a bien avalé les médicaments, parce que beaucoup d'entre eux sont très malins, gardent sous la langue, et une fois que la personne est partie, recrache le médicament. Et ça, elle l'a répété à mon fils, parce que quand je suis allée quelque temps plus tard rendre visite à mon fils, ce dernier m'a dit, mais pourquoi tu t'adresses à... pourquoi tu parles au psychiatre? Donc, alors ça, si vous voulez, ce que disent ces psychiatres qui font ami-ami, entre guillemets, avec leurs patients, là encore, voyons comment, quel est le terme, ils veulent être transparents avec leur passion. Il faut que rien ne soit caché. Ça s'appelle... C'est la confiance, en fait. Ils veulent capter la confiance de leur passion.
Ils installent l'alliance thérapeutique. Mais enfin, bon...
Merci. C'est ça.
Oui. Mais là, en l'occurrence, vous les alertiez sur l'état de votre fils. Et quand ce psychiatre accepte de le laisser sortir alors qu'il a un danger pour les autres, un grave danger, et un danger pour lui-même... On s'interroge, et que ce même psychiatre dit il est guéri, deux jours plus tard, il le garde cinq semaines et lui donne un médicament contre la schizophrénie. Donc il y a quand même un problème de cohérence. Alors là, vous allez le chercher, la maladie est donc stabilisée, puisqu'il a pris cinq semaines de traitement. Oui. Et il se passe quoi ensuite?
Alors, le premier mois se passe très bien, et puis dans les semaines qui suivent, je réalise à ses yeux, à son comportement, que manifestement, il ne prend pas le traitement. Je ne fais rien parce que je commence à être déjà éprouvée, fatiguée, épuisée. Et puis arrive le 14 août, où mes deux autres enfants ont prévu de passer quelques jours chez moi et avec leurs frères. Alors, mon fils aîné avait une compagne, une fillette de 3-4 ans, et ils étaient venus avec une jeune femme et un enfant du même âge. Alors, le matin de ce 14 août, mon fils malade, qui était chez moi, comment dire, comment dire, fait du ménage dans la maison, alors que je l'avais déjà fait, mais il veut que tout soit nickel, étincelant pour l'arrivée de ses frères. Donc il était heureux de l'arrivée de ses frères et de sa petite nièce. Malheureusement, je me suis rendu compte au cours de la matinée qu'il buvait café sur café. Donc j'ai réalisé qu'il était en train de stresser à outrance. À midi, 13h, il a refusé de manger et il m'a dit qu'il allait se coucher. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est encore un problème qui va arriver. Ça n'a pas manqué. Quand mes filles sont arrivées, bon, les portières ont claqué, etc. Les enfants ont parlé, ont joué, ont ri, grimpé dans l'escalier. Et puis mon fils, qui est à l'étage, il est descendu de sa chambre tout en colère, en disant qu'on l'avait réveillé, que les enfants faisaient trop de bruit. Il est sorti et pendant un certain temps, ça a duré très longtemps, mais bien sûr, c'est une scène hallucinante. Il tournait autour des véhicules de ses frères, les menaçant verbalement. Il ne les a pas touchés, mais il était très en colère, parlait très haut, très fort. Et ce manège a duré... longtemps, je lui dis, écoute, maintenant, Charles, arrête. Pardon, je ne voulais pas parler de son prénom. Arrête, parce que sinon, moi, je vais prévenir ton psychiatre que ça ne va pas, que tu ne prends pas tes médicaments et que là, tu es dans une séquence où tu ne vas pas du tout bien. Bon, il s'est un peu calmé, mais il a continué, tant et si bien que ses frères, surtout mon fils aîné, avec les deux enfants de 3-4 ans, ont décidé qu'il ne resterait pas. Et ils sont partis. Donc j'ai été privée de la présence de mes deux autres enfants à cause de mon fils malade. Donc le 16 août, je suis allée au CMP, le centre médico-psychologique, voir la secrétaire en lui expliquant ce qui s'était passé, en lui demandant d'informer le psychiatre qui suivait mon fils. Donc ce qui a été fait, je crois que c'est le soir même qu'il a dû m'appeler. Donc je lui ai répété ce qu'il en était. Il m'a dit, écoutez, je dois voir votre fils, je crois, 8 jours après, donc je notifie pas le rendez-vous. Bon, et puis ça s'est arrêté là. Après les faits, j'ai rencontré le dit psychiatre par hasard et il m'a dit, je pensais que votre fils ne viendrait pas au rendez-vous et donc dans ce cas-là, je l'aurais fait hospitaliser d'office. J'aurais envoyé les forces de gendarmerie le chercher. Et
il est venu, mais il a été au rendez-vous.
Il a été au rendez-vous.
Et ça s'est calmé son attitude, Marie-Françoise, entre le moment où vos enfants étaient là et après? Non, pas du tout. Chaque jour, il y a eu une crise.
Non. Il n'y avait pas des crises tout le temps, mais c'était son attitude. C'était difficile de lui parler. Il y a des choses qu'il faisait. Je ne regardais plus parce que j'étais épuisée. Et puis, un jour, j'en suis venue, de par son comportement, à lui poser la question. Dis-moi, j'ai l'impression que je ne suis plus chez moi, mais qu'en fait, j'habite chez toi. Il m'a dit, c'est ça.
Est-ce qu'il vous faisait peur, votre fils, à ce moment-là, ou pas?
Peur, non, parce qu'un jour, il m'a agressé verbalement, sans me toucher. Je lui aurais, entre guillemets, volé la clé de sa chambre, parce que la chambre, il l'a fermée à clé, il gardait tout le temps la clé sur lui. Pourquoi j'aurais fait ça? Je ne l'ai pas du tout fait. Mais c'était très agressif. Et donc, mais je ne me suis pas laissée démonter. Il était là, il me regardait d'un air très méchant. Et je crois que je ne l'ai même pas trop regardé parce que je ne voulais pas qu'il y ait une confrontation avec les yeux. En me disant, ça va peut-être l'apaiser
ne le regarde pas.
Si
sinon, ça peut attiser. Ça peut attiser
c'est
sa colère.
Ça, exactement. Ouais. Et puis, ça, c'était un soir. Et le lendemain, il est venu auprès de moi me présentant ses excuses parce qu'il avait cherché sa clé toute la nuit et il avait fini avec une lampe de torche à la retrouver un peu plus loin sur le gazon. Donc, il m'a quand même présenté ses excuses.
Et donc, il était quand même conscient de ce qui se jouait. Quand même, quelque part en lui, il avait une conscience de ce qui se jouait, en tout cas. Oui.
Quand même. quand même. Oui. Mais bon, moi j'étais épuisée. À la fin, je ne voulais plus qu'il soit là. Je voulais chercher une solution. Je suis repartie au CMP. J'ai dit à la secrétaire, écoutez, dites au docteur que moi je ne peux plus supporter mon fils à la maison. C'est trop perturbant pour moi. Je ne peux plus. Et en fait, je n'avais goût à rien. Et puis, là où je regrette, c'est la chose que je conseille aux personnes, que je n'ai pas faite, tellement j'étais moralement et physiquement épuisée, c'est que je n'ai pas envoyé une lettre recommandée au psychiatre qui le suivait à ce moment-là pour lui demander de le faire venir à l'hôpital psychiatrique et de le soigner, parce que manifestement, il ne prenait toujours pas son traitement et puis que quelque chose allait advenir. Donc ça, je m'en veux de ne pas l'avoir fait. Et j'ai appris aussi une deuxième chose que les personnes doivent savoir, c'est que le maire de la commune, parce que moi j'étais dans une commune rurale, où les villes, ça doit être la même chose, le maire a pouvoir de police. Et il m'aurait peut-être soutenu et peut-être trouvé une solution. Peut-être qu'il aurait fait appel au psychiatre, à la gendarmerie, etc., pour qu'on le fasse admettre à l'hôpital. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Il faut voir donc le procureur de la République, les lettres recommandées au psychiatre et le maire de sa commune.
D'accord.
Voilà, ce sont les trois axes où l'on peut
faire agir, en fait. Voilà, c'est ça.
Voilà. Et puis, je voulais dire à la personne, parce que justement, on en arrive au moment où, un jour d'octobre, il se rend chez nos voisins qui étaient assez proches. Il n'y avait pas de clôture, de barrière, ni quoi que ce soit entre nos deux propriétés. Il trouve mes voisins attablés avec des amis. C'était la venue d'un bébé qui avait 8 jours ce jour-là. Et donc, ils étaient en train de prendre l'apéritif tout tranquillement. Et moi, mon fils arrive vers les 18 heures à peu près. Et puis, les insultes et les menaces mon voisin de mort.
Devant tout le monde. Donc là, et en plus, il y a plein de témoins.
Il y a plein de témoins.
Et sans aucune raison, bien sûr, puisque vous êtes en bon terme avec vos voisins.
Oui, moi j'étais en bon terme, il n'y avait pas de problème.
Et lui les connaissait, ses voisins.
Bien sûr, mais mon voisin m'a dit après coup, je l'ai revu ultérieurement, et il m'a dit que souvent, mon fils allait à la limite entre nos deux propriétés et il regardait, il surveillait un peu ce qui se passait chez le voisin.
Pourquoi? Bon, ça, c'est son côté paranoïaque. C'est son côté paranoïaque.
Absolument. Oui. Tout à fait. Et donc, une heure après, mon voisin m'appelle en me relatant les faits. Et donc, j'ai compris que mon fils était en pleine paranoïa et qu'il devait être hospitalisé de toute urgence. Donc, je suis sortie de chez moi, je suis allée dans la ville voisine à l'hôpital psychiatrique, j'explique la situation, j'explique aussi que mon fils est, c'est le chef de service de cet hôpital qui est le psychiatre de mon fils. Ils me disent qu'ils ne peuvent rien. Ils me disent, allez voir au service des urgences. Je m'en vais aux urgences. Et là, on me dit, pour faire quelque chose, il faut le certificat médical d'un 27 traitant. Je dis, écoutez, il est 20h30, 21h, je ne sais plus. Ce n'est pas maintenant que je vais l'avoir. Et mon fils va être hospitalisé de toute urgence, sinon il va y avoir un drame.
Et pendant ce temps-là, votre fils est dans la nature, parce que vous vous débattez avec toutes les personnes qui sont censées faire quelque chose. Lui, il est dans la nature, à la maison, pendant ce temps-là, votre fils.
Voilà. Il est à la maison pendant ce temps-là, parce que je suis partie sans rien lui dire.
Bah bien sûr.
Je
cite juste un SMS là d'une auditrice au 739-21 qui dit « Je suis abasourdie du récit de cette femme, que je trouve d'ailleurs admirable, et je partage son avis, et je me demande quelle personne peut être internée si un danger comme son fils ne l'est pas. » Donc ça vient appuyer ce que je suis en train de souligner, c'est-à-dire que vous, pendant que vous vous débattez avec l'hôpital psychiatrique, avec son psychiatre, avec les urgences, votre fils, il est dans la nature après avoir menacé de mort les voisins. C'est invraisemblable.
Donc, j'ai trouvé la solution parce qu'après, disons, j'étais un peu abasourdi qu'on ne puisse rien rien faire à ces deux niveaux. Je me suis souvenue de l'action que j'avais menée la première fois que j'avais fait hospitaliser mon fils des années auparavant, et ça m'avait été suggéré par, je ne sais plus, c'était l'hôpital, en tout cas des personnes, des soignants psychiatriques. Donc, je suis allée à la gendarmerie de la ville. Ils m'ont dit, on ne peut rien faire, il faut que vous appeliez le SAMU. Je téléphone au SAMU, j'explique qu'il me dit, c'est trop gros pour nous, on va prévenir les pompiers. Et donc, et les pompiers vont appeler les gendarmes pour les assister. Donc, vous rentrez chez vous, je leur fais la je laisse mes coordonnées, je fais un peu la topographie des lieux où j'habite avec mon fils, et ils me disent, vous attendez, il y a une intersection, un carrefour, vous attendez là que les gendarmes, les pompiers arrivent. Donc, je vais dire aussi aux personnes, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'une personne disait qu'elle ne sait pas toujours comment faire amener à l'hôpital son proche.
Oui, oui.
Il faut que, suivant qu'il s'agit d'une gendarmerie ou un commissariat de police, vous allez trouver ces deux antennes d'agents de sécurité, vous leur expliquez la situation. Alors, le SAMU n'était pas en mesure, donc ce sont les pompiers. Donc, vous prévenez les pompiers, il faut que conjointement, ils viennent, parce que la police ou la gendarmerie assiste les pompiers, parce qu'évidemment, la personne ne va pas se laisser faire.
Vous êtes dans une petite ville, Marie-Françoise ? Vous êtes dans une petite ville ?
Oui. Oui, enfin, j'ai changé depuis, je suis plus dans cette maison, dans cette ville, dans cette région, j'ai changé de région.
D'accord.
Parce que déjà, je ne pouvais plus entretenir la maison, étant donné mes ressources, et en plus, ça me pesait.
Bien sûr, avec tout ce que vous avez vécu dans cette maison, je peux comprendre, oui.
Donc, voilà, alors j'attends. Mais une heure et demie, ils ont mis une heure et demie avant d'arriver. Et puis malheureusement, les pompiers ont actionné leur sonnerie.
Ah oui, donc, la sirène.
La sirène, ben voilà. Et même si c'était pas devant la maison, mais une intersection, il y a un petit chemin, mais c'est pas très loin, mon fils l'a entendu. Et puis, ben il est venu. Au bout du chemin, sauf que lorsqu'il a vu le camion des pompiers et celui de la gendarmerie, il a bien compris que c'était pour lui que je réitérais ce que j'avais déjà fait des années auparavant. Et donc, il s'est enfui. Et comme les gendarmes et les pompiers sont allés à sa poursuite pour essayer de le rattraper, malheureusement, c'est une ancienne ferme, donc à la maison d'habitation, et il y avait plein de bâtiments de ferme, même si c'était désaffecté. Donc, ils l'ont cherché pendant une heure et demie, et puis au bout d'une heure et demie, ils sont revenus vers moi en me disant que malheureusement, ils ne l'avaient pas trouvé, il s'était caché quelque part. Et malheureusement, ce soir-là, les chiens qui généralement les aident à retrouver les personnes étaient sur une autre affaire. Donc, malchance de ce côté-là. Donc, ils m'ont dit, écoutez, vous allez nous ouvrir la maison, on va quand même fouiller, puisqu'il a lui aussi des clés, au cas où il se serait caché là. Ils ont fouillé toute la maison, mon fils n'y était pas. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas rester là, étant donné ce que vous nous avez raconté. Est-ce que vous avez un endroit où aller dormir? J'ai dû réveiller ma sœur, aller chez elle, il était près de minuit. Et puis à 2h du matin, je m'endors et à 2h30 du matin, je reçois un appel de la gendarmerie. Votre fils a pénétré par effraction dans la maison de vos voisins et il les a agressés sauvagement et il les a laissés pour morts.
Ah oui.
Voilà. Et alors heureusement, mon voisin, parce que mon fils a cassé une vitre au rez-de-chaussée, il a pénétré donc à l'intérieur de la maison. Quand mon voisin a entendu les bruits de verre, il a tout de suite compris ce qui allait se passer, puisque mon fils l'avait menacé quelques heures plus tôt. Donc il a eu le temps de mettre sa famille, qu'il croyait avoir mis sa famille à l'abri, et puis de téléphoner à la gendarmerie et de leur indiquer que son voisin, bien sûr il savait qu'il était schizophrène, et donc était venu le menacer et le tuer. Donc les gendarmes sont venus tout de suite ensuite, mais n'empêche, mon fils avait eu le temps de les agresser au couteau, au canif en plus, même pas un grand couteau, tous les deux.
Ils s'en sont sortis, Marie-Françoise ?
Ils s'en sont sortis. La jeune femme, mieux que son conjoint. Le monsieur, lui, par contre, il a reçu des coups de couteau à la jugulaire, etc.
Il a des séquelles.
Et puis au bras. Alors, son bras gauche, il a subi deux opérations, mais. Alors, je ne sais pas si elles se sont mal passées ou quoi, mais en tout cas, il est devenu partiellement handicapé du bras gauche. Et puis, il a dû accepter un mi-temps thérapeutique alors qu'il n'avait que 35-38 ans, quelque chose comme ça. Voilà.
Donc, leur vie a basculé.
Ah oui. Heureusement, il n'a pas touché aux enfants. Il y avait un enfant de 7 ans et un bébé de 8 mois. Et pourtant, le bébé de 8 jours,
oui,
était dans les bras de sa mère lorsque mon fils l'a tailladé de coups de couteau. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas toucher le bébé. Et après, quand les deux parents se sont effondrés, il a pris le bébé des bras de sa mère, il l'a mis dans les bras de son frère aîné et lui a dit « Maintenant, tu vas aller chez tes grands-parents puisqu'ils habitent non loin de là. » Et puis, il est allé se cacher pas très loin. Et donc, j'ai dû être sur les lieux vers 7h du matin, etc. Il y avait évidemment des renforts de police partout qui cherchaient mon fils qu'on a retrouvé dans l'après-midi. Mais évidemment, je suis rentrée dans la maison. Je n'ai pas regardé mon fils parce que j'étais très affectée, je ne comprenais pas. Ah oui, parce que les gendarmes, il y avait plein de gendarmes dans ma maison et ils étaient là en armes, etc., dans la chambre de mon fils pendant qu'il se changeait et qu'il emmenait quelques vêtements. Donc je suis passée, je ne l'ai pas dit un mot et d'ailleurs j'ai mis 6 mois avant d'aller le voir dans le centre pénitentiaire parce que ma colère s'était apaisée, mais pendant 6 mois je ne pouvais pas le voir parce que je le trouvais à fond. C'était innommable ce qu'il avait fait.
Qu'est-ce qu'il vous a dit lorsque vous l'avez revu après 6 mois?
Rien. Non, disons c'est souvent moi qui faisais la conversation, mais bon, il ne voulait pas en parler, d'une part. Et en plus, il avait dit aux gendarmes qu'il ne regrettait rien.
Et depuis, toujours pas de regret, toujours pas de...
Je ne lui en parle plus. Disons qu'il a passé le temps de l'instruction qui a duré 2 ans et demi, et puis la date du procès aux assises, des psychiatres ont été nommés, il y en a eu 6 ou 8 en tout, il y a eu des collèges, il y avait des gens qui étaient seuls, etc. Donc ils n'étaient pas d'accord pour savoir s'il fallait parler d'abolition du discernement. Et puis finalement, ce que les magistrats ont retenu, c'était une minoration du... C'est pas le terme.
Une perte, non, même pas, oui.
Une altération, voilà. Une altération du discernement, et il a été condamné à 30 ans de prison.
30 ans de prison, oui. Et le psychiatre en question, là, qui n'a pas fait le nécessaire, vous l'avez revu?
Alors, j'ai écrit à la directrice de l'hôpital général, parce que la partie psychiatrique est rattachée à l'hôpital général. J'ai dénoncé ses activités. J'ai estimé qu'il était en grande partie responsable.
Oui, parce que s'ils avaient écouté vos demandes répétitives, il aurait été hospitalisé et le drame n'aurait pas eu lieu.
Bien sûr. Absolument. Mais comme je n'ai pas été écoutée, je vous dis, voilà, je m'en suis voulu longtemps, même encore, même si je m'en veux pas. C'est quand même là, c'est-à-dire que c'est en sous-main. J'y pense, si j'avais pas été aussi épuisée que je l'étais, j'aurais eu l'esprit un peu plus dégagé, j'aurais fait cette lettre recommandée au psychiatre qui le suivait, en exigeant qu'ils internent mon fils à l'hôpital psychiatrique.
Oui, enfin, vous n'avez pas culpabilisé, Marie-Françoise, vous avez été exemplaire, vous n'avez jamais, jamais baissé les bras, tout de même, dans le récit que vous nous faites de votre histoire avec votre fils, et tout cela en plus avec une charge émotionnelle monumentale. On parle de votre enfant, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, vous avez tiré toutes les sonnettes d'alarme que vous pouviez tirer. Par contre, vous n'avez pas été entendue.
Celle-là. Non, je n'ai pas été entendue, mais voilà. J'ai dit au psychiatre ce qu'il en était, mais je n'ai pas envoyé de lettre recommandée qui aurait peut-être eu le même levier sur
que la
lui
première fois.
Que la précédente, que la première fois. Et je m'en veux encore, parce que je me dis, si je l'avais fait, peut-être que justement il aurait hospitalisé mon fils et que la vie de mes voisins n'aurait pas été gravement endommagée.
Mais de toute façon, la lettre serait arrivée trop tard, puisque tout ça s'est fait sur un temps très ramassé, puisque il menace vos voisins, vous activez l'hôpital.
Là, j'ai plus le temps. Oui. Là, je ne pouvais plus écrire, mais c'était bien avant. C'était des semaines avant, c'est-à-dire après puisque le drame s'est produit en octobre.
Au moment où la famille était à la maison et qu'il a commencé.
Voilà, au 16. C'est-à-dire, si j'avais écrit en septembre ma lettre recommandée, à laquelle je pense maintenant depuis des années déjà, peut-être que le drame aurait pu être évité. Je ne sais pas.
Peut-être ou pas, parce que de toute façon, vu comment vous... Il n'était pas dit que le second psychiatre réagisse comme le premier. Hein.
Je ne sais pas.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a que des incohérences. En tout cas, le personnel de santé a l'air complètement, pardonnez-moi l'expression, à côté de la plaque. Et on parle quand même de danger... on parle de danger de mort. La preuve, il a agressé des gens qui ont eu la chance d'être encore vivants aujourd'hui avec un bébé de 8 jours. D'ailleurs, Clément nous écrit là au 7-39-21, bon, malheureusement, on parle de votre fils, mais j'espère que cet homme ne sortira jamais de prison. Mais c'est incroyable que le système ne l'ait pas protégé, n'ait pas protégé les gens, quoi.
Je vais vous dire une chose, c'est que malheureusement, le service, l'hôpital psychiatrique est la partie de l'hôpital qui reçoit le moins de fonds. C'est-à-dire qu'il manque de personnel.
Psychiatre,
aide-soignant, infirmier, etc. Alors que dans les années 60-70, la France était en pointe dans le domaine, était reconnue au niveau mondial pour ses bons résultats dans le domaine psychiatrique. Sauf que, comme dans tous les secteurs de la vie, qu'elle soit économique, sociale et autre, tout va à volo. Aucun gouvernement n'a fait le nécessaire. À l'époque du général de Gaulle et de Pompidou, on avait les plans sur 30 ans pour aménager le territoire, développer les industries, etc. Puis après, chacun a fait ce qu'il a voulu et nous arrivons maintenant, vous n'avez plus suffisamment dans les hôpitaux traditionnels, si je peux dire, enfin, généraux, vous n'avez toujours pas assez de médecins, vous n'avez pas assez d'infirmières, ils sont épuisés, ils font des gardes à n'en plus finir, etc. Donc tout va à volo, le domaine de la santé.
Oui, j'entends, et on le sait que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine aujourd'hui, on le dit beaucoup dans la libre antenne, et on le dit beaucoup sur les antennes tout court, mais c'est vrai que dans le cas de votre fils, on a affaire à une maman qui est d'une très forte lucidité, parce que franchement, bravo d'être à ce point lucide sur son propre enfant, vous tirez toutes les sonnettes d'alarme. C'est ça qui est aberrant. Vous les tirez toutes en temps voulu et personne ne réagit. Et pire encore, on vous dit qu'il est guéri, on le remet en liberté. C'est invraisemblable.
C'est incroyable. Oui, ça c'est de la folie.
Parce que quand même, l'avenir vous a donné raison, malheureusement.
Mais oui,
et aujourd'hui, comment il se comporte en prison, votre fils ?
Alors, il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est-à-dire que dans toutes les... Parce qu'il a fait plusieurs centres pénitentiaires depuis cette époque. Régulièrement, il est envoyé dans les UHSA, c'est-à-dire ces unions spéciales totalement aménagé. C'est-à-dire, en fait, c'est un centre psychiatrique gardé par des gardiens de prison. Et donc, il y fait des séjours de quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Mais c'est jamais assez long, parce que comme... comme il ne veut pas prendre les médicaments. Et en plus, il m'a dit un jour, tu vois, maman, je ne suis pas fou, regarde, au niveau de, que ce soit aux assises ou à la cour d'appel, les magistrats ont dit que j'avais, n'ont pas retenu l'abolition du discernement. Donc, j'étais, il y a une altération du discernement, mais dire que je savais ce que je faisais.
Ah oui, donc ça, voilà. Valide, alors, ça valide en plus le fait qu'il ne se considère pas comme étant malade.
Absolument. Absolument. C'est terrible.
Donc aucune repentance, aucun remords, non. Aucun regret, rien du tout.
Non.
Juste,
non.
Tu vois, le jugement dit bien que je ne suis pas fou. C'est la seule chose qui l'obsède, voilà. En fait, c'est qu'on ne le considère pas comme
absolument.
Fou.
Absolument. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et donc, toujours pas de prise de médicaments. Et donc, il arrive à la fin de sa peine dans combien de temps ?
En 2047. Disons s'il fait les 30 ans, parce que vu son comportement, normalement, il a une peine de sûreté de 22 ans. Théoriquement, au bout de 22 ans, on devrait revoir son... Il peut faire une demande de remise en liberté, on l'étudie, on accepte, on refuse, etc. Moi, j'y crois pas, je pense pas qu'il le laisse sortir. Si vite, et quelque part je me dis que tant qu'il est en prison, bah, il ne va pas agresser qui que ce soit, parce que sinon il va recommencer.
Bah, encore faut-il surtout que cette fois il fasse les choses comme il faut, surtout parce que dans 22 ans il aura quel âge, hein? C'est dans quelle année?
60 ans en 2047. Au bout de 30 ans de...
D'accord. Donc, si on enlève, je suis nulle en maths, 8 ans de moins, c'est donc aux alentours de 2039.
40, voilà, 39, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et il aurait 52 ans à ce moment-là. Mais bon, je ne pense pas qu'on le laisse sortir comme ça, parce que je ne sais pas. J'ai posé dernièrement la question à l'ASPIP, le service d'insertion et de probation, pour savoir comment ça allait se passer... parce que je devais le voir le 1er mai. Malheureusement, il a été transféré dans son nouveau centre pénitentiaire le 22 février. Tout s'était très bien passé. Et puis, la veille du 1er mai, le directeur adjoint de la prison m'appelle en me disant « Voilà, écoutez, depuis ce matin, votre fils ne va pas, il agresse les gardiens, etc. » Donc, on ne peut pas le faire voir à un psychiatre, parce que comme c'est férié, il ne le verra que vendredi, mais après, il y aura une semaine d'hospitalisation, et voilà.
Donc là, ils se sont bien rendus compte, en tout cas dans les services pénitentiaires, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Ah mais oui.
Là, ça y est, maintenant, c'est acté.
Ah non, mais c'est acté, parce que dans quasiment chaque